géopolitique.
Chantal Loureau.
Bienvenue dans Géopolitique. Les sondages avaient prédit un scrutin ultra serré, une attente interminable avant de connaître le nom du vainqueur. Et en quelques heures, c'était plié. Donald Trump, 78 ans, s'installera à nouveau dans le bureau ovale de la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Et aussitôt élu, il a prédit à l'Amérique un nouvel âge d'or. Sa victoire est sans appel. 301 grands électeurs pour Trump contre 226 pour Kamala Harris. L'ancien mania de l'immobilier a également remporté le vote populaire, 4 millions de voix de plus que sa rivale démocrate, et le chiffre peut encore évoluer. Une première en tout cas depuis 20 ans pour un candidat républicain. Cerise sur le gâteau, les républicains ont repris aux démocrates le contrôle du Sénat. Le contrôle de la Chambre des représentants, lui, est toujours en suspens. Alors que va faire Donald Trump de sa victoire? Tentera-t-il d'unifier le pays ou voudra-t-il avant tout prendre sa revanche? Quel sera le rôle d'Elon Musk au sein de la nouvelle équipe dirigeante? Sur le plan international, faut-il s'attendre à des guerres commerciales tous azimuts si le président républicain, comme il l'a promis, impose des droits de douane sur l'ensemble des importations américaines? Dans les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, Donald Trump se voit en faiseur de paix, mais comment compte-t-il y parvenir? Doit-on s'attendre à voir triompher la loi du plus fort? Les deals vont-ils remplacer le droit international? L'Europe risque-t-elle d'être la grande perdante de l'élection américaine si les États-Unis se désengagent du vieux continent? Beaucoup de questions, donc on va en débattre avec nos invités. À mes côtés en studio, Elisa Schell, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeure des universités en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et rédactrice en chef de Politique américaine. Laurie Kenton.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et en ligne de New York, Romuald Sciorra. Bonsoir, ou plutôt bonjour, parce que pour vous, c'est la mi-journée.
Voilà, juste 13h40.
À New York. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je vous propose de revenir d'abord sur les résultats de cette présidentielle américaine qui a tenu le monde en haleine. Laurie Kenton, avez-vous été surpris, vous aussi, par cette victoire confortable de Donald Trump et sa progression spectaculaire par rapport à 2016?
Alors, il y a deux questions dans votre question. La première sur la victoire, aucune des deux victoires n'aurait été surprenante. C'est-à-dire que l'un comme l'autre pouvait gagner de façon décisive, mais on ne savait pas. Donc c'était serré. En fait, non, c'était incertain plus que serré.
Et ils étaient quand même au coude à coude dans les sondages.
Ils étaient au coude à coude dans les sondages, mais à partir du moment où l'un gagne d'une fraction de rien du tout un État, il emporte tous les grands électeurs. Et donc c'est pour ça que ce décalage sur les grands électeurs donne l'impression d'un raz-de-marée, alors qu'en fait, quand on a une petite victoire dans un État, on empoche tous les grands électeurs. Quand ça se multiplie sur 6 ou 7 États, forcément, ça fait un gros écart. Donc d'un côté comme de l'autre, c'était pas surprenant. C'était surprenant qu'il y ait autant d'États qui penchent du côté de Trump. Et surtout aussi rapidement. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que la Pennsylvanie en particulier compte beaucoup plus lentement, comme ça a été le cas en 2020, à cause de la fameuse règle de décompte des bulletins par correspondance qui ne commençait que le jour de l'élection. On sait que l'Arizona, qui fait à peu près de la même façon et qui compte lentement, est encore en train de compter, donc on s'attendait plutôt à ça. Donc le fait d'avoir un résultat aussi large n'est pas surprenant, le fait d'avoir un résultat aussi rapide est surprenant. En revanche, ce qui est surprenant aussi, c'est que Trump soit très loin devant sur le vote populaire.
Voilà, ça, il remporte le vote populaire.
Il progresse par rapport à il y a 4 ans, alors que Kamala Harris, il y a un trou d'air du côté des démocrates qui est assez surprenant.
Oui, parce qu'il y a donc 4 millions de voix d'écart entre les deux.
Et elle fait nettement moins que Joe Biden. Et qui était à 81 millions il y a 4 ans. Alors il y a 4 ans, c'était peut-être un peu exceptionnel, c'est ça aussi.
Et il y a 8 ans, il y avait 3 millions, dans l'autre sens, il y avait 3 millions pour Hillary Clinton qui avait perdu.
Oui, mais alors, qui avait 1,5 million de moins dans les 49 autres États que la Californie? En fait, c'est la Californie qui fausse tout.
Elisa Schell, l'animal politique qu'est Donald Trump a su mieux comprendre que Kamala Harris la colère d'une majorité d'Américains. Évoquer par exemple la bonne santé économique du pays quand les Américains modestes ont du mal à régler leurs factures, quand les prix de l'immobilier s'envolent et qu'ils ne peuvent plus se loger. Ça, c'était une erreur des démocrates?
Alors, il a su capter les attentes d'un électorat émergent, puisque là, on compare des chiffres qui ne se basent pas complètement sur le même électorat, ou en tout cas le même électorat potentiel, donc les gens en âge de voter. Il y avait eu déjà 4 millions d'électeurs en plus en 2020, et là, il y avait 8 millions d'électeurs potentiels. Encore une fois, il faudra voir les chiffres exacts afin de savoir qui s'est déplacé. Mais ce qu'on sait, c'est que parmi ces nouveaux électeurs, il y avait 30% de latinos. Donc dans cette élection, il y a une très forte progression du vote latino, et ce vote latino était très préoccupé par la question de l'immigration. Et ça, ça a été une carte forte de Donald Trump dans ce scrutin, c'est de jouer une sur un programme très dur sur l'immigration, à la fois sur la remise en cause du droit du sol pour les enfants nés de parents étrangers sur le sol des États-Unis, mais aussi sur les reconduites à la frontière, hein, on sait qu'il en a promis de massives, et sur la répression de la criminalité parmi ces immigrants illégaux. Donc ça, ce sont des arguments qui résonnent beaucoup dans la communauté latino, puisqu'il ne faut pas croire que parce que les latinos sont des latinos, ils voient d'un bon œil les immigrants illégaux qui arrivent en masse et qui sont arrivés en masse suite à la levée des restrictions du Covid. Donc ça, ça a été un argument important. En plus, il est vrai, c'est pas le seul argument, en plus du bilan économique de Joe Biden qui était insatisfaisant en matière d'inflation, les prix de la vie courante, l'alimentation, l'essence, le prix des loyers, l'accès au crédit pour la propriété, tout ça a augmenté, et même si maintenant ça arrête d'augmenter, ça reste élevé. Donc le coût, au double sens du terme, a été très très important pour les Américains, et ça a coûté cher aux démocrates. Donc les démocrates avaient fait le pari d'une campagne éclair en 3 mois en mettant Kamala Harris sur le devant du ticket. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné pour des critères qui sont aussi, je crois, des critères personnel, de style de Kamala Harris, où elle a eu beaucoup plus de mal à capter la lumière, à capter l'attention médiatique, à établir vraiment une connexion avec les Américains, au final, puisque peu, malgré tout, la connaissait, même si elle a été vice-présidente pendant 3 ans et demi, 4 ans, alors qu'il s'apprêtait à voter.
Romuald Ciora, on entend depuis mercredi beaucoup de critiques très sévères sur la stratégie de campagne de Kamala Harris. Est-ce que, selon vous, la vice-présidente a raté sa campagne ?
Oui et non. Alors, il faut quand même voir d'où elle vient. Kamala Harris a été une vice-présidente qui a fait un bon job. Simplement, elle a été marginalisée comme aucun vice-président ne l'a été depuis Lyndon Johnson sous Kennedy. Si vous vous rappelez, Mike Pence, il était quand même assez visible. Joe Biden sous Obama, évidemment. Dick Cheney sous Bush, c'est lui quasiment qui gouvernait le pays, entre guillemets, bien sûr. Kamala Harris a donc été très marginalisée et, comme on vient de le dire, elle était peu connue du grand public. Donc déjà, c'était un handicap au début de sa campagne. Mais elle a quand même une campagne au départ dynamique et positive. On se rappelle quand même de ses succès dans les sondages, de son succès lors de la convention démocrate. Le problème de Kamala Harris, c'est qu'elle avait un grand écart quasi impossible à tenir jusqu'au bout. Et je n'ai pas été tellement étonné du résultat, et cela pour plusieurs raisons, car je craignais que ce grand écart, effectivement, ne puisse pas être tenu jusqu'au 5 novembre. Elle devait, pour remporter l'élection, avoir avec elle une partie des républicains modérés qui auraient pu voter pour elle avec une pince à linge sur le nez, qui en fin de compte ont préféré voter pour le candidat républicain, et en parallèle la gauche du parti démocrate qui était prête à se reporter sur un tiers candidat style Jill Stein du Green Party, ou tout simplement à ne pas se mobiliser, ne pas se rendre aux urnes, tout simplement car ils étaient en opposition avec la position de l'administration Biden-Harris quant au conflit au Proche-Orient, sans parler des fortes populations arabo-musulmanes en Pennsylvanie et dans le Michigan. Donc c'était un grand écart assez difficile pour elle, et quand on l'accuse de ne pas avoir véritablement de programme, c'est un petit peu vrai d'ailleurs, mais le problème c'est que dès qu'elle faisait un pas à gauche, elle perdait à droite et vice versa. Donc c'était très difficile à tenir lorsque l'on sait qu'elle n'a eu que 3 mois. En plus de cela, il est vrai que la seconde partie de sa campagne, après le débat pourtant réussi face à Trump, a été un désastre. Elle nous a fait une campagne style années 90, paillettes, entourée de pop stars. Elle passait son temps à sourire, à rire, à prendre les gens dans ses bras. Les Américains veulent un chef d'État martial, que ce soit un homme ou une femme. Ils voulaient Angela Merkel. Ils ne voulaient pas la bonne copine. Donc ça, on peut parler d'une mauvaise campagne, effectivement, dans la seconde phase. Mais comme l'ont dit très justement vos invités, la situation aux États-Unis est grave pour les Américains au quotidien. Tous les problèmes du quotidien ont été énumérés par vos invités, mais il ne faut pas oublier non plus tous ces emplois, toutes les promesses qui ont pu être faites pour la création d'emplois dignes de ce nom. Quand à chaque fois on se gargarise du nombre d'emplois créés chaque mois aux États-Unis, il faut savoir de quel genre d'emploi on parle. Plus de 60% de ces emplois, c'est dans un emplois que aucun Européen ne voudrait. Plus de 9-10 heures par jour de travail dans de nombreux États. Un jour de congé par semaine quand ce n'est pas une demi-journée. Pas de congé payé, évidemment. Pas d'assurance maladie, etc., etc. Donc, tout cela cumulé a fait que, évidemment, le discours porteur et l'excellente campagne de Trump ne pouvait, selon moi, depuis déjà un moment, que résulter dans un succès du républicain.
Laurie Quinton, Kamala Harris était trop déconnectée des réalités, trop de stars autour d'elle. Vous êtes d'accord avec
Romuald ? Il y a plusieurs choses. En plus, moi, j'ai pas mal travaillé sur cette question des stars et de l'impact qu'elles pouvaient avoir. En fait, le problème, c'est qu'elles prêchaient des convaincus aussi, ces stars. Alors, il y a une première dimension, c'est que c'est, en gros, la candidate démocrate qui s'entoure des milliardaires ou des millionnaires des grandes villes, d'Hollywood, etc. Donc, évidemment, les Trumpistes ont joué là-dessus. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est l'image de déconnexion. Elle n'est pas avec les vrais gens. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est là-dessus que les républicains ont joué, et bon, c'est le jeu. L'autre point, c'est que toutes ces stars qui ont été mobilisées sont plutôt d'ordre déjà acquises. C'est-à-dire le public de Bruce Springsteen, de Beyoncé, etc., c'est déjà des gens qui votent démocrate. Alors que là où Trump a été très finaud, c'est qu'il a écouté non pas ses conseillers en politique, mais son fils Barron, qui lui a dit, parce que Barron, il a 18 ans, il écoute des podcasteurs un petit peu bizarres, mais qui parlent aux jeunes. Et il parle à des jeunes qui ne votent pas, qui sont complètement en dehors du politique, qui s'intéressent aux jeux vidéo et à un certain nombre de sujets qui ne sont pas du tout de la politique. Et ces gens-là, quand Trump est rentré là-dedans, ils se sont dit, tiens, il est plutôt sympa. Et puis il nous parle à nous, jeunes hommes marginalisés par tous les mouvements féministes qui sont associés aux démocrates, à tort ou à raison, et qui se sentent complètement criminalisés. Comme des violeurs potentiels, etc. Et donc, là, ils se sont dit, c'est notre candidat. Et alors là, il y avait des votes à gratter, parce que ce sont des gens qui ne votent pas. Donc là, ça a été une stratégie qui était bien plus efficace, en fait, que la stratégie démocrate. Et puis, voilà, il y a ce qu'on a déjà dit, c'est la question de la macroéconomie. Oui, les statistiques économiques sont relativement flatteuses quand on regarde ça de très haut, et quand on regarde le ressenti des gens, non seulement ils nous disent « mais c'est pas du tout ce que je vois », et surtout ils se disent « mais ces gens-là ne parlent pas du tout de la vie réelle ». Et donc, voilà, ils sont considérés comme déconnectés.
Elisa Schell, est-ce que Kamala Harris a trop misé sur la question de l'avortement ? Mardi, les Américains ne votaient pas seulement pour élire leur président, il y avait aussi d'autres scrutins parallèles. Et des femmes ont voté oui à l'avortement lors de référendums locaux, tout en préférant voter pour Donald Trump à la présidentielle. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce que ça vous étonne ?
Une campagne, c'est aussi basé sur un certain nombre de paris. Donc Kamala Harris avait fait le pari du vote des femmes, qui s'est montré effectivement plus favorable aux démocrates, mais pas plus favorable à Kamala Harris qu'elle ne l'avait été pour Joe Biden. Donc les écarts sont les mêmes. Donc de ce point de vue-là, on peut même dire que Harris a contre-performé puisqu'elle a 8 points d'avance chez les femmes, mais c'est la plus courte avance depuis 20 ans chez un candidat démocrate. Et encore une fois, cette question de l'avortement n'a pas pesé significativement parce qu'elle est plus clivante qu'il n'y paraît, puisque même chez les femmes, il y a des conservatrices et qui tiennent au droit à la vie et qui ne sont pas du tout attachées à la libéralisation de l'avortement. Le fait que Kamala Harris soit une femme ne semble pas non plus avoir joué en sa défaveur. Ce que les chiffres donnés sortis des urnes, hein, ça se consolidera bien sûr par la suite, mais ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas eu de vote sanction sur le fait qu'elle soit une femme. Je pense que ça s'est joué ailleurs, hein, sur les points qu'on a évoqués tout à l'heure, et que vraiment, l'avortement n'a pas permis de sortir du lot. Et D'autant plus que la question maintenant, comme vous l'avez dit, se décide au niveau des États. Donc Kamala Harris n'avait pas une grande marge de manœuvre, même s'ils ont tout fait pour peser dans ce sens-là.
Mais Laurie Kenton, oui, j'avais une... vous vouliez réagir.
Je voulais juste rebondir pour ajouter un élément à ce que disait Elisa à l'instant. Dans les États clés, Kamala Harris a perdu partout et les sénatrices démocrates ont gagné. Donc ça n'est pas un problème de femme parce que les gens ont voté pour une femme en même temps qu'ils ont voté pour Trump. Et ça n'est pas non plus un problème fondamentalement démocrate parce que les gens ont voté pour une démocrate et pour Trump le même jour. Donc c'est vraiment un problème Harris et Biden-Harris.
Mais en même temps, Donald Trump a séduit les jeunes hommes hispaniques. Il a réussi à engranger des voix aussi chez les Afro-Américains qui votent traditionnellement plutôt démocrates. Tous, semble-t-il, si l'on en croit les reportages qu'on a pu entendre ou voir ici ou là, semblent avoir été sensibles à la force, à la virilité, à la puissance que Trump dégage. Donc, est-ce que ça veut dire ou pas que l'Amérique... ou est-ce que ça veut dire quand même que l'Amérique n'est pas forcément prête à élire une femme à la présidence?
Alors, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que les femmes en politique, c'est pas forcément un problème. Pour certains hommes, les femmes à la Maison-Blanche, c'est peut-être un autre problème. Et ça, chez un certain nombre de Noirs et d'Hispaniques, ça a été dit aux journalistes. Et donc, on a des remontées des correspondants et des envoyés spéciaux qui ont dit effectivement qu'ils avaient été confrontés à ça, qu'ils ne savaient pas, quand ils couvraient ça, si c'était un épiphénomène, donc si c'était juste anecdotique, c'était la personne en face d'eux, ou si c'était quelque chose de plus large. Et ce sont des choses qui sont difficiles à sonder. Parce qu'on essaie de sonder ça de manière plus indirecte, plutôt que de dire aux gens « est-ce que vous êtes homophobe ? Est-ce que vous êtes misogyne ?» Là, les gens, forcément, ne vont pas répondre. Donc ça, c'est très difficile à sonder. Ce qu'on a vu avec Hillary Clinton, c'est que, pas forcément, elle a perdu, parce qu'elle a perdu dans les États clés, de très peu, dans le Michigan, dans quelques États comme ça. Mais finalement, elle a fait plus ou moins le plein. C'est-à-dire que Hillary Clinton a fait une campagne qui n'était pas extraordinaire au niveau stratégique, mais on ne lui a pas spécialement reproché d'être une femme. On lui a reproché d'être une Clinton et on lui a reproché d'être Hillary Clinton, qui était une personnalité assez clivante, qui agace aussi. Mais ce n'est pas forcément parce que c'est une femme. Elle aurait pu gagner pour un cheveu, en fait, en 2016. Donc ce n'est pas vraiment disqualifiant.
Mais la campagne a été très rude, la campagne de Trump, très violente, très agressive, et il y est allé vraiment très très fort envers Kamala Harris. Quand il a dit par exemple « Joe Biden est devenu débile, Kamala Harris est née débile », est-ce qu'elle a répondu, elle a réagi alors qu'Hillary Clinton avait décidé, ou ses conseillers lui avaient conseillé de ne pas réagir à toutes les attaques de Trump? Kamala, elle a essayé de se défendre. Alors peut-être... peut-être en se moquant de lui, peut-être que ce n'était pas à ce moment-là assez viril, entre guillemets, mais elle a eu raison de rétorquer, non ?
Il n'y a pas forcément de bonne solution. Le problème, c'est que face à un bulldozer comme Trump, quand on essaye d'avoir une stratégie un peu rationnelle, eh ben on ne sait jamais, surtout Kamala Harris est extrêmement prudente, peut-être beaucoup trop prudente. Elle a toujours eu peur de faire le pas de côté qui allait la mettre en gros dans les choux. Et donc le fait d'être aussi prudente a fait qu'elle n'a pas eu une stratégie vraiment de clash.
Elisa Schell.
Oui, elle a laissé glisser beaucoup d'attaques pendant cet été où elle balayait d'un rire ou de quelque chose.
Ce qui n'était pas forcément absurde.
Oui, tout à fait. Donc elle est passée à côté et c'est vraiment sur les derniers jours, les derniers mètres de la campagne que ces attaques contre Donald Trump, disant que c'est un fasciste, se sont intensifiées. Je pense aussi craignant le retard qu'elle avait et espérant pouvoir miser sur la médiatisation d'un certain nombre de phrases agressives qu'elle aurait eues contre Donald Trump. Mais pour l'essentiel, elle a laissé glisser ses attaques parce que Donald Trump a fait le Donald Trump qu'on connaît d'habitude. Il avait parlé en des termes aussi peu amènes d'Hillary Clinton, de Joe Biden et maintenant de Kamala Harris. Donc tout le monde a été un peu traité à la même enseigne de ce point de vue-là.
Et on a vu que toutes ces insultes ou ces propos outranciers ont glissé sur les partisans de Trump. Laurie Kenton.
Oui, là-dessus, de toute façon, on a beaucoup... Alors, attention, les partisans de Trump et puis gens qui ont voté Trump sans trop aimer le personnage. Il y en a beaucoup... qui ont voté pour Trump sans aimer le personnage, mais en se disant « il sera mieux pour nous ».
Elisa Schell, Laurie Kenton, Romuald Ciora, on fait une pause, le temps d'un nouveau journal, et on se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre du monde selon Trump.
Mmh. géopolitique.
Chantal Loureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Donald Trump a été élu mardi 47e président des États-Unis. Une victoire sans appel sur sa rivale démocrate Kamala Harris. Le 20 janvier, il prêtera serment et retrouvera la Maison-Blanche, 4 ans après l'avoir quitté sans reconnaître sa défaite face à Joe Biden. À quoi va ressembler le monde selon Trump? On continue d'en débattre avec 3 spécialistes des États-Unis, Elisa Schell, Laurie Kenton et Romuald Sciorra. Romuald Sciorra, est-ce que le Trump 2025 sera plus dangereux que le Trump 2016?
Oui, bien sûr. Le Trump 2016 était quelqu'un qui s'était présenté chez les Républicains l'année d'avant après avoir hésité à aller courir du côté des démocrates. Il n'y avait pas de ligne directrice. Il était entouré de personnes qui ne savaient pas trop non plus où elles allaient. Bref, Trump aujourd'hui est devenu l'incarnation de ce qu'il représente pour son électorat, c'est-à-dire l'incarnation de la droite radicale et religieuse américaine. Il est entouré de personnes qui ont un agenda pour ce qui est de la politique intérieure du pays. Peut-être un agenda moins précis pour l'extérieur, mais néanmoins des lignes directrices très très précises. Trump sait ce qu'il veut, il sait qu'il ne pourra pas faire un autre mandat, non pas simplement pour une problématique constitutionnelle, les choses peuvent toujours changer, mais tout simplement pour des raisons d'âge, et il veut véritablement changer l'Amérique. L'Amérique de 2028 ne sera plus tout à fait celle de 2024. Donc pour répondre clairement à votre question, que ce soit sur l'intérieur ou l'extérieur, Trump est différent. Est-il plus dangereux? Je dirais que si on est opposé à ses idées, comme c'est le cas pour moi qui ai voté Kamala Harris en ce qui concerne la politique intérieure, oui, je dirais que l'Amérique de 2024, de 2028, aura plus de chances de ressembler à la Hongrie de Viktor Orban qu'à l'Amérique de John Kennedy. Pour ce qui est de l'extérieur, l'imprévisibilité de Trump peut le rendre plus dangereux dans ses rapports avec certains de ses partenaires. Néanmoins, Trump est quelqu'un qui déteste la guerre. C'est un businessman et pour lui, la guerre entrave les affaires et donc ce n'est jamais une bonne chose. Donc je ne le vois pas pousser Netanyahou dans une guerre à haute intensité avec l'Iran. Par contre, effectivement, il poussera Zelensky à traiter dans une position très défavorable pour l'Ukraine, ça c'est certain. Effectivement, Taïwan ne sera plus protégée par les États-Unis comme elle a pu l'être depuis depuis les années 50, etc., etc. Donc oui, bien évidemment, sa politique pourra être plus dangereuse dans le fait qu'elle sera plus imprévisible pour ses alliés. Néanmoins, je ne le vois pas lui-même en tant que va-t-en-guerre.
Vous évoquiez l'Ukraine à l'instant. Pendant sa campagne, Donald Trump s'est projeté en faiseur de paix.
Moi, président, je réglerai cette guerre en une journée, 24 heures. Je gagne cette élection, la première chose que je fais, c'est d'appeler Zelensky et le président Poutine. Et je leur dis, il faut trouver un deal. C'est de la folie.
Laurie Kenton, le président Volodymyr Zelensky a été parmi les premiers à féliciter Donald Trump pour, je cite, son impressionnante victoire, en espérant que son élection aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste. Est-ce qu'il ne faut pas redouter plutôt une paix russe en Ukraine ?
C'est ce qu'on peut redouter de manière, disons, immédiate. Après, il faut se méfier de deux choses. La première, c'est que Trump, alors il fait des deals, mais surtout, il fait des deals qui sont à l'avantage de Trump. Il ne faut pas qu'il ait l'air faible. S'il a l'air faible, il a l'air d'un loser. Et si Trump a l'air d'un loser, il ne va pas être content. Donc il faut prendre ça en considération. C'est la première chose, c'est l'ego surdimensionné de Trump. Donc il va y avoir un deal, mais qui sera forcément, disons, qui mettra Trump à son avantage. La deuxième chose, c'est les armes. La guerre en Ukraine, les Républicains disent que ça leur coûte cher, c'est vrai. Pas tant que ça, finalement, quand on regarde l'économie américaine vue de loin. Et puis surtout, ça rapporte, parce qu'il y a beaucoup d'armes américaines qui sont fabriquées aux États-Unis. Et donc ça fait tourner les usines. Donc il y a beaucoup d'États qui sont assez contents, le Texas en particulier. Et puis, il y a aussi un avantage stratégique d'une certaine manière, c'est qu'il y a beaucoup d'armes nouvelles qui sont testées en Ukraine. Donc le travail d'amélioration des armes, il est fait là-bas en particulier. Donc il y aura probablement une tentative de résolution du conflit, mais qui sera à l'avantage aussi des États-Unis et de Trump.
Romuald Ciora, en tout cas un conseiller de Trump, hein, Brian Lanza, a annoncé un peu la couleur aujourd'hui en déclarant « la priorité en Ukraine est la paix, pas la restitution des territoires ». Donc ça veut dire qu'il va forcer Zelensky à accepter de rendre... il va forcer Poutine à ne... Non, je reprends. S'il force Zelensky et Poutine à négocier, quel pourrait être le deal sur les territoires, justement?
Alors, je me permets juste de revenir sur ce qui vient d'être dit et qui est très juste, c'est-à-dire que lorsque Trump veut un deal, c'est essentiellement un deal en faveur de Trump. Mais où je nuancerais, c'est que ce coup-ci, n'oublions pas une chose, c'est que le 21 janvier, le lendemain de son investiture, Trump aura en ligne de mire les élections de mi-mandat qui auront lieu l'année suivante aux États-Unis. Et pour des raisons d'agenda, mais aussi d'orgueil, il ne voudra pas perdre ces élections de mi-mandat qui sont très souvent défavorables à l'administration en place. Donc, ce qu'il a, son objectif, c'est de plaire à son électorat. Et son électorat a eu de sa part une promesse, je mettrai fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Donc, même si le deal auquel il va pousser, et sur lequel je vais revenir dans quelques secondes, Zelensky n'est pas favorable spécifiquement à moyen et long terme aux États-Unis, si Trump arrive à négocier une paix, même en faveur de l'Ukraine, une paix qui sera de toute façon un échec pour la politique occidentale, vu à quelle hauteur nous avions mis la barre dès le départ, néanmoins, cela sera pour lui vu comme un succès auprès de son électorat. Et à ce moment-là, en ce qui concerne l'Ukraine, c'est la seule chose véritablement qui l'intéresse. C'est pourquoi je nuancerai, si je puis permettre, ce qui a été dit, et que je pense que nous arriverons d'ici l'été, si ce n'est avant le printemps, un deal forcé entre l'Ukraine et la Russie. Alors, quel pourrait être ce deal? Je pense que c'est très clair. De toute façon, le problème est depuis le départ, on a mis la barre tellement haut, aucun analyste sérieux ne pouvait croire que l'Ukraine récupérerait la Crimée. Zelensky, c'était une guerre, les conditions, c'était la Crimée, le Donbass, les territoires de l'Est, Poutine en prison, etc. Donc, jamais la Crimée n'aurait pu être récupérée, ou alors il aurait fallu envoyer des soldats sur le sol. Là, c'est une autre chose. Donc, bref, la Crimée, évidemment, devrait être reconnue comme russe par les États-Unis, je pense le Donbass, une partie des territoires de l'Est. Malheureusement, cela sera donc une forme de victoire pour Poutine, mais aussi en demi-teinte. Hein. N'oublions pas que Poutine voulait quand même envahir l'intégralité de l'Ukraine et dominer l'Ukraine, ce qui n'a pas été le cas et ce qui ne sera pas le cas. Par contre, ce qui sera promis en échange à Zelensky, c'est non pas une intégration dans l'OTAN, ça n'arrivera pas, mais de voir son intégration dans l'Union européenne, l'intégration de l'Ukraine, véritablement favorisée et poussée par les Américains. Intégration qui, de toute façon, intéressera les Américains, puisque, et croyez bien que je regrette tout ce que je dis, hein, ma mère était ukrainienne, j'ai de la famille qui vit pas très loin du front, donc c'est vraiment un dossier auquel je suis sensible, mais voyons les choses telles qu'elles sont. L'Ukraine n'est pas prête à entrer dans l'Union européenne, et d'une certaine façon, cela déstabilisera l'Union européenne, ce qui est toujours dans l'intérêt des Américains.
Laurie Kenton, l'autre grande question, c'est va-t-on vers un désengagement américain du vieux continent ?
Alors, la question du désengagement américain, un désengagement, disons, sélectif, c'est quelque chose qui remonte à avant Trump. Et on parlait de la Crimée à l'instant. Un certain Barack Obama avait choisi de ne pas s'engager en Crimée parce qu'il considérait, un, que les intérêts vitaux des États-Unis n'étaient pas engagés, et deux, que c'était plutôt la sphère d'influence russe, et donc qu'il n'y avait pas lieu de s'engager. Donc le désengagement, de toute façon, il remonte à la lassitude des guerres éternelles commencées sous George W. Bush, que Trump reprend. Et donc, ce désengagement, il va probablement se poursuivre. Trump déteste l'Union européenne, qu'il voit comme une alliance d'herbivores, puisque le terme revient souvent dans l'actualité.
On va comprendre pourquoi dans un instant.
Ah ben, c'est une vieille métaphore sur les herbivores et les carnivores. Donc, pour Trump, c'est un carnivore. Les Européens, ce sont des herbivores. Il déteste l'UE, qui en plus est une source de régulation, notamment de la tech, etc. Donc, ça lui fait perdre de l'argent. Ça fait perdre de l'argent aux États-Unis.
Et il estime que les Européens devrait pouvoir se défendre tout seul.
Et sur les questions d'alliance, effectivement, lui, comme Obama, estime que les Européens sont des passagers clandestins qui se reposent sur les États-Unis et devraient se débrouiller un peu plus seuls.
plus de parapluies américains. En tout cas, cette perspective peut-elle provoquer un électrochoc de l'Europe? C'est ce qu'a souhaité au sommet de Budapest Emmanuel Macron en filant la métaphore.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre. Je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer.
Alors l'Europe doit se défendre. Le problème, Laurie Kenton, c'est que l'Europe est minée par les divisions, qu'elle n'a plus de leadership et que Donald Trump a un cheval de Troie en la personne du président hongrois Viktor Orban.
Oui, pas uniquement. Il y a des gens qui le regardent d'un très bon œil en Slovaquie. Je crois comprendre que le président polonais a mis son agenda de côté pour aller faire un saut à Mar-a-Lago. Donc il y a un certain nombre de gens comme, qui voient d'un très bon œil l'arrivée de Donald Trump. L'Europe est particulièrement divisée et affaiblie parce qu'on a vu un certain nombre de gouvernements tomber ces derniers temps et qu'il y a en fait une malédiction des sortants. On voit ça en Europe, on voit ça au Japon et on voit ça aux États-Unis avec l'administration Biden qui est dans cette dimension-là. Donc on voit que le gouvernement allemand vient de tomber. En France, on a eu une crise politique dont on sort bon an mal an et où il n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée. Donc il y a ce contexte qui joue extrêmement en faveur de Trump finalement. Et des États-Unis, parce qu'il faut faire attention à une chose. Une présidence Biden n'était pas spécialement pro-européenne. Une présidence Kamala Harris n'aurait pas été beaucoup mieux. Faut pas être trop naïf avec les Américains. Hein. C'est pas seulement Trump.
Alors, le dossier épineux du Proche-Orient, là encore, Donald Trump a assuré pendant sa campagne qu'il mettrait fin rapidement à la guerre, mais sans préciser comment. La victoire de Trump, Elisa Schell, c'est une aubaine pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ?
C'était le meilleur scénario possible pour lui, mais Donald Trump avait initié en 2020 les accords d'Abraham, qui étaient la constitution d'un axe anti-Iran dans la région. Et ces accords se sont effilochés, pour dire le moins, avec les années. Donc c'est quand même une situation complexe que Donald Trump va avoir à relever dans la région. Puisqu'il n'a pas du tout donné son orientation sur ce qu'il pensait de la solution à deux États. Est-ce qu'il va aller dans ce sens-là? On sait qu'il a une politique pro-israélienne, que bien sûr le soutien militaire à Israël sera poursuivi. Mais au-delà, que va-t-il faire? Il s'est engagé à réinclure l'Arabie saoudite dans ses accords d'Abraham pour continuer à lutter contre l'Iran, puisqu'il veut mettre une très forte pression diplomatique et économique sur l'Iran. Il aura les coudées franches pour le faire, puisqu'il... Il a avec lui une majorité parlementaire pour l'instant au Sénat et probablement, hein, je parle encore sous réserve des résultats définitifs, et probablement à la Chambre des représentants. Donc on a une situation explosive qui appelle à un cessez-le-feu, mais on ne sait pas du tout comment Donald Trump négociera ce cessez-le-feu. Autant il a dit des choses très ambitieuses sur la fin du conflit ukrainien, mais sur la fin de la guerre entre Israël et le Hamas, il n'a pas dit grand-chose, si ce n'est encore de pilonner l'Iran sur le plan à la fois économique et diplomatique.
Justement, Romuald Ciora, est-ce que Donald Trump pourrait aider Israël à détruire les installations nucléaires iraniennes, ce que Joe Biden avait refusé de faire il y a quelques semaines?
Écoutez, je ne suis pas certain. Imaginons que les choses s'intensifient entre l'Iran et Israël. Il pourrait être tenté, il vient de déclarer qu'il voulait aider le peuple iranien à s'enrichir, etc. Donc il pourrait être tenté par une forme d'action vraiment ponctuelle et précise contre les sites nucléaires iraniens. Mais la crainte de Trump, comme je le disais précédemment, c'est de se retrouver avec une guerre de haute intensité qui pourrait dégénérer et qui pourrait créer, via le pétrole et autres choses, une crise financière mondiale qui aurait des répercussions aux États-Unis. Et comme je le disais également, Trump aura très rapidement en ligne de mire les élections de mi-mandat pour 2026. Il devrait effectivement, comme cela vient d'être dit, avoir également la Chambre des représentants. Donc jamais un président depuis très longtemps n'a eu autant de pouvoir, c'est-à-dire le législatif, l'exécutif et juridique, avec la Cour suprême qui est quand même en grande partie à sa botte, sans parler de la légitimité énorme qui est la sienne. Il est l'homme qui est revenu de fraude électorale, selon lui bien évidemment, d'une chasse aux sorcières et de tentatives d'assassinat. Il voudra conserver le Congrès l'année prochaine. Donc je peux me tromper, pour l'Ukraine, je mettrai mes deux mains à couper qu'on aura un deal d'ici l'été. Par contre, pour l'Iran, je serai un petit peu plus circonspect. Il me semble que Trump fera tout pour éviter une guerre de haute intensité qui pourrait avoir des répercussions sur la vie, le quotidien des Américains et donc sur les élections. Une fois encore, et comme cela a été dit par l'un de vos invités, quand Trump fait un deal ou prend une décision, c'est d'abord quelque chose qui doit être à son avantage. Et son avantage n'est pas l'ordre international ni éventuellement la politique américaine à long terme, mais plutôt à brève échéance les prochaines élections.
Laurie Kenton.
Oui, il y a un risque inflationniste très fort avec l'Iran à cause du pétrole. Et il y a deux risques inflationnistes très forts dans ces politiques. Un, les reconduites à la frontière des immigrés clandestins qui devraient faire bondir à la fois le coût du travail et puis le coût de la production. Et puis,
oui, parce qu'il
les barrières douanières.
Dès le premier jour de son élection.
Oui, Trump dit beaucoup de choses. Il faut regarder ce qu'il fait plutôt que d'écouter ce qu'il dit. Ça, c'est toujours
il n'aura pas les moyens d'expulser des millions de travailleurs immigrés
clandestins. Il a beaucoup plus de chances d'avoir les moyens parce qu'il aura la Chambre, donc il aura les budgets, ce qui était un petit peu l'inconnu s'il avait une Chambre démocrate contre lui, ce qu'on a déjà vu ça en 2019. Mais là, il peut y avoir des problèmes, disons, plutôt d'ordre logistique qui peuvent ralentir un petit peu les choses, plus des villes qui s'opposent à la mise en pratique. Bon, il peut y avoir un certain nombre de couacs, mais ça va faire monter les prix. Et puis, deuxième chose, il y a les barrières douanières, sa politique commerciale, qui devrait être très inflationniste. Donc, il ne peut pas non plus multiplier les risques inflationnistes, parce que c'est ça, c'est sur ça qu'il a été élu, et c'est aussi ce qui pourrait le perdre, justement, à moyen terme, les élections de mi-mandat, et à plus long terme, sur le camp républicain en 2028.
Il reste 30 secondes, Elisa Schell.
Oui, le coût estimé de ces expulsions des immigrants illégaux est de 315 milliards de dollars. Et il ne faut pas oublier que maintenant, les intérêts de la dette américaine ont dépassé le budget même de la défense. Donc, la question qui va se poser au Congrès, qui est nouvellement élu, ça sera celle d'un budget, véritablement, avec une dette abyssale.
Un dernier mot, Romualdo Sciorra, quel rôle pour Elon Musk ?
Oh, Musk ne devrait pas avoir un rôle officiel dans la nouvelle administration, mais plutôt peut-être à la tête d'une nouvelle agence ou en tout cas comme une sorte de super conseiller.
Il pourrait prendre la tête, dit-on, d'un ministère de l'efficacité gouvernementale.
Oui, je ne suis pas certain. Oui, il y a des bruits qui courent, mais alors que vous savez, il est très difficile de faire des pronostics là-dessus. Mais je le verrais plutôt, d'après ce que j'ai cru comprendre, à la tête d'une forme d'agence plutôt que en tant que membre du gouvernement. Mais ce qui est certain, c'est que pour Elon Musk, c'est un succès inouï. Il est devenu, comme Trump d'ailleurs, une icône américaine. Ses budgets vont être multipliés. Les commande également et son influence sur le président ne sera que grandissante. Donc même s'il n'a pas une fonction officielle dans le cabinet, c'est-à-dire en tant que membre du gouvernement, on peut quand même parler d'un duo Trump-Musk pour les prochaines années.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique. Romuald Sciorra, je signale votre livre à paraître le 15 janvier chez Armand Collin, L'Amérique éclatée. Elisa Schell, vous êtes rédactrice en chef de Politique américaine, dont le nouveau numéro Une démocratie ébranlée vient de paraître chez L'Harmattan. Laurie Kenton, je rappelle que vous avez fait vivre avec Julien Grosso la campagne présidentielle américaine en musique aux auditeurs de RFI. C'était tous les vendredis matin. matin avec Julien Coquel-Roem, à qui vous voulez adresser un petit salut, c'est ça ?
Qu'on te salue au passage, puisqu'il reprend les rênes de la matinale dès demain matin.
Absolument. Et ces chroniques sont toujours disponibles sur notre site RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Et puis je renvoie vos fans loriques à votre livre co-écrit avec Julien Grosso, Rock and Road Trip, les États-Unis en 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming, publié chez Hors Collection 2023. Et Joe Farmer y avait consacré une émission Épopée des musiques noires.